VOA Afrique, les infos. À Washington, Timothée de Nangmaï.
15h ici à Washington, disant Valentin universel, bonsoir à tous. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a ordonné le déploiement de l'armée à travers le pays en appui à la police après les attentats de ce dimanche contre deux églises coptes. Ces attaques revendiquées par le groupe État islamique ont fait au moins 44 morts et des dizaines de blessés. Les coptes, comme les autres chrétiens, marquaient ce dimanche, le dimanche des Rameaux, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, coup d'envoi de la Semaine Sainte en préparation de la fête de Pâques. Le pape François, qui doit se rendre en Égypte ce mois-ci, a dénoncé la double attaque contre les Égyptiens, les Coptes égyptiens. À la fin de sa messe des Rameaux, le souverain pontife a dit qu'il prie pour les morts et les victimes. Il a aussi dit prier pour une conversion des cœurs de ceux qui sèment la terreur, de même que ceux qui produisent et vendent les armes. Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont condamné les attentats contre deux églises coptes en Égypte, les qualifiant de lâches. Dans un communiqué, le Conseil a appelé tous les États membres à collaborer avec le gouvernement égyptien pour traduire en justice les auteurs de ces attentats. Le nouveau chef de l'armée somalienne, le général Ahmed Mohamed Jimale Irfrid, a échappé à une tentative d'assassinat lorsqu'un véhicule piégé a explosé au passage de son convoi. L'explosion a tué au moins 15 personnes à bord de deux minibus qui passaient sur les lieux. Le général Irfrid rentrait de la cérémonie de passation de service avec son prédécesseur, le général Ahmed Mohamed Aden. Le groupe militant Al-Shabaab a revendiqué la responsabilité de l'attaque. Appel des défenseurs des droits de l'homme et des journalistes aux autorités algériennes pour qu'elles libèrent le militant des droits de l'homme, Kamel Edine Fekrar, en grève de la faim depuis 97 jours. Il avait été arrêté dans la foulée des heurts intercommunautaires sanglants dans la région de Gardaïa, dans le centre du pays, et incarcéré depuis juillet 2015 à Larouat, à 420 km au sud d'Alger. Il attend toujours d'être jugé.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Le président américain Donald Trump ordonnera de nouvelles actions militaires en Syrie s'il le juge nécessaire, a fait savoir l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU. Il n'y a pas d'option politique avec Assad à la tête du pays, a dit Mme Nikki Haley. Toutefois, le secrétaire d'État Rex Tillerson a fait savoir que la principale priorité des États-Unis est d'éliminer le groupe État islamique. Une fois la menace du groupe État islamique réduite ou éliminée, nous pourrions alors orienter notre attention vers la stabilisation de la situation en Syrie, a précisé le chef de la diplomatie américaine. Monsieur Tillerson, qui se rend à Moscou le 12 avril, sa mission, exhorter la Russie à repenser son soutien au gouvernement du président syrien Bachar al-Assad, ont fait savoir des responsables américains. Le chef de la diplomatie britannique Boris Johnson a de son côté annoncé samedi avoir annulé son voyage prévu le 10 avril à Moscou. Les développements en Syrie ont fondamentalement changé la situation, a-t-il expliqué. Le président Donald Trump a demandé aux membres de son administration de lui proposer toutes les options pour éliminer la menace posée par la Corée du Nord, a indiqué le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, le général McMaster. C'est un régime voyou ayant maintenant des capacités nucléaires, a-t-il expliqué, alors que le porte-avions Carl Vinson et ses trois destroyers lance-missiles ont reçu l'ordre de mettre cap sur la péninsule coréenne, question d'envoyer un message à Pyongyang. C'est une mesure de prudence, a souligné le général McMaster. Un responsable nord-coréen a déclaré ce dimanche que son pays renforcera son système de défense pour se protéger du genre de raid mené par les États-Unis contre la Syrie. 9 membres des forces de sécurité afghanes ont été tués dans la province septentrionale de Balkh, un bastion des insurgés talibans, ont indiqué les autorités afghanes. Des responsables américains ont fait savoir de leur côté qu'un soldat américain a été tué en prenant part à des opérations contre le groupe État islamique en Afghanistan. Enfin, le Pakistan juge nécessaire la présence des États-Unis au pourparlers internationaux sur l'Afghanistan devant débuter le 14 avril à Moscou. L'administration américaine refuse de prendre part à ces efforts, s'interrogeant sur les intentions et les motifs de la Russie. Voilà, c'est tout pour ce bulletin d'information. Timothée de Nangmaï, ici à Washington. Je vous retrouve à 20h temps universel.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. Afrique.
et tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
C'est votre rendez-vous avec Eric Manilakiza en direct de Washington. Merci de votre fidélité sur VOA Afrique. Oui, vous suivez Dialogue des religions. Aujourd'hui, l'on parle de cette rencontre entre le pape François et les imams britanniques. On parle de cette attaque terroriste qui a eu lieu à Londres il y a exactement 2 semaines, et le pape a reçu aujourd'hui au Vatican 4 imams britanniques. C'est dans son objectif de soutenir les religieux qui combattent les violences religieuses. Je vous demande de suivre ces détails qui nous sont présentés par Lionel Gahim.
L'audience du souverain pontife et des 4 imams avait été programmée bien avant l'attaque du 22 mars à Londres, durant laquelle un homme avait tué 3 piétons à l'aide de son véhicule avant de poignarder mortellement un policier londonien devant le Parlement. Pour l'imam Mohammad Shahid Raza, président du Forum islamique britannique, le soutien du pape et son message de solidarité après l'attaque de Londres ont renforcé la position de la communauté musulmane qui, à l'instar des autres communautés, condamne toute activité terroriste. La visite au Vatican vise à encourager les leaders religieux musulmans qui rejettent toute justification de la violence par la religion, a expliqué de son côté le cardinal Vincent Nichols, l'archevêque catholique de Westminster, qui accompagne les 4 imams britanniques au Saint-Siège. Le pape François poursuivra ses efforts dans ce sens plus tard ce mois lorsqu'il visitera l'université Al-Azhar du Caire au lieu de la pensée islamique sunnite.
Les précisions de Lionel Gahima pour planter nos décors, mais aussi ouvrir les débats. Nous avons un invité en ligne, c'est Athanase Karayenga qui est un habitué à ce dialogue des religions. Athanase, bonsoir.
Bonsoir Eric.
Nous avons aussi d'autres auditeurs en ligne. Il y a eu beaucoup de commentaires sur notre page Facebook. Athanase, je commence par vous. Quel est votre point de vue par rapport à cette approche du pape François?
Pas seulement du pape, mais aussi des imams anglais, mais aussi ça s'inscrit dans une série d'initiatives depuis plusieurs années entre le pape catholique et puis le pape orthodoxe. On se souvient de la rencontre historique entre le pape Paul VI et le pape Athénagoras. Il y a eu toujours des tentatives de rapprochement entre les religions, et je crois que c'est toujours une très très bonne chose que les religions se rapprochent pour parler de paix, pour parler de compréhension entre les humains, pour parler du respect de la vie, pour parler des droits humains, pour parler de la protection de la planète, de l'environnement, des animaux, des rivières. Je crois que c'est extrêmement important que toute l'humanité se mette en mouvement pour protéger ensemble le patrimoine commun que nous avons au-dessus de toutes ces religions, qu'elles soient monothéistes ou les religions qui professent plusieurs divinités. Il y a une religion unique qui nous rassemble, c'est la religion de l'humain, c'est la religion qui professe le respect des humains et de la planète et de l'environnement. C'est au-dessus de toutes ces religions.
Et pourtant, vous disiez que vous êtes athée.
Ah ben, ça tombe bien, justement, parce que...
C'est pour être au-dessus de la mêlée.
Pas nécessairement qu'on s'aligne sur une négation absolue de ce qui est... de ce qui nous dépasse, de ce qui nous transcende. On peut être un bon religieux tout en niant l'évidence que l'humanisme est beaucoup plus important pour nous qui n'avons pas de religion. On peut être athée en niant l'importance des religions. Je pense que c'est des attitudes inacceptables d'un côté comme de l'autre. Il faut respecter la différence des croyants et des croyances, mais aussi respecter ceux qui ne croient en rien. Je veux dire qu'ils ne croient pas à une divinité transcendantale.
Mmh. Attends, on me signale qu'on a déjà un premier auditeur en ligne, c'est Richard Zulizongo. Bonsoir.
Oui, bonsoir, Eric Maniakiza.
Vous êtes au Burkina, c'est ça?
Oui.
Oui, et le Burkina, un pays qui n'est pas épargné par des violences religieuses, par des terroristes. Votre commentaire à la rencontre entre le pape et les quatre imams britanniques?
Voilà, je dirais que c'est vraiment une bonne initiative que le pape a initiée et je crois que son geste est vraiment louable puisque s'il réussit à rencontrer quatre imams britanniques, c'est pour vraiment montrer, prouver vraiment qu'il est ouvert à toutes les confessions religieuses et que si tout les autres responsables des différentes confessions religieuses étaient ouverts comme le pape. Je pense qu'il n'y allait pas avoir un monde avec des conflits religieux. Donc c'est pour dire aux responsables des autres confessions religieuses d'être vraiment ouverts comme le pape l'a fait pour vraiment apaiser les tensions qui règnent au sein des différentes confessions religieuses. Si vous me permettez, j'ai une histoire à vous raconter.
Très rapidement.
Au moment du Ramadan ou la Tabaski, l'archevêque de Ouagadougou a l'habitude d'aller saluer aller assister à la prière avec les musulmans. Et en leur retour aussi, le jour de la Pâque, les musulmans venaient passer saluer le pape. Et un de ces jours, le pape allait prier avec les musulmans. Et en leur retour, un imam s'est levé le jour de la Pâque et allait saluer le pape et les autres qui sont levés et dit c'est pourquoi leur imam est allé saluer le pape. Et tu dis que ça, c'est un acte ignoble, c'est un acte à vraiment banni. Il ne faut pas être partisan de la violence, mais au moins partisan de la paix et un monde uni, puisque c'est le but est le même Dieu que nous prions. Donc je crois que les autres confessions religieuses doivent vraiment être ouvertes comme le pape et comme les catholiques pour vraiment bâtir un monde de paix, un monde de justice, un monde équitable pour que la paix et la solidarité et la cohésion règnent dans le monde entier.
Merci Richard pour votre contribution. Il y a Louis Mutanga qui a dit sur notre page Facebook, le pape préoccupé à la recherche de la paix à travers le monde ne peut pas rester indifférent à toute situation qui affecte la conscience de l'humanité, car étant donné que les conflits sociaux, politiques et religieux seraient la cause de la recrudescence du terrorisme international, la stratégie du pape reste louable pour la recherche de la paix. C'est l'avis de Louis Mutanga. Et Fabrice Naré dit belle initiative du pape, mais qu'il essaye de voir les choses autrement. D'où vient le terrorisme? Il dit est-ce que les terroristes ne veulent pas changer son monde en enfer? C'est le point de vue et il pose une question. On pourra peut-être avoir un commentaire. Et Alpha Kanyinku, il dit un dirigeant qui ne voulait pas laisser le pouvoir aux autres, il viole même, ce n'est pas la morale du terrorisme que le pape songe pour son beau pays, la RDC Congo, Alpha Tonkanyiku qui semble interpeller le pape pour s'occuper encore plus de la RDC. Nous avons un autre auditeur en ligne, c'est Mohamed. Bonsoir.
Bonsoir monsieur. Bonsoir le bureau.
Vous avez la parole.
Bon, vraiment, nous saluons l'initiative du pape, vraiment, d'avoir faire regard avec les autres religions. Vraiment, c'est un jalon qu'il a posé, le jalon qui vient d'être posé comme ça, c'est un bon chemin qui a à suivre. Donc, vraiment, nous saluons le pape. Bon courage à lui. Ce qu'il fait comme ça, si tous les autres prenaient un exemple avec lui, vraiment, il y aura la cohésion entre les États du monde. Donc, nous félicitons le pape, que Dieu lui donne longue vie et la santé. Merci, Béwa.
Mohamed.
Oui, tout à fait. Hein?
Oui, mais au-delà justement de cette rencontre, est-ce que vous pensez que les fidèles, à leur niveau, est-ce qu'ils intègrent ça? Est-ce que parce que ce sont eux, après tout, qui sont utilisés dans ces actes de violence.
Bon, voilà, donc ceux donc qui se disent comme ça qu'ils sont des croyants en tuant les autres religions, les autres adeptes disant qu'ils sont adeptes, c'est archi faux. Tout homme qui est croyant ne peut pas fermer les épiers son prochain comme ça, comme un animal. Donc nous, on n'est pas derrière cet acte barbare et condamnable. Donc ce que Dieu dit, de reconnaître son prochain et rester avec lui tel qu'il est. C'est Dieu qui fera le jugement dernier. Dans l'au-delà, c'est Dieu qui sera, qui connaît ce qui va se passer. Donc, personne n'est habilité à tuer son prochain comme ça, en disant aussi, prendre le prétexte que Dieu est grand. Dieu n'est pas avec les assassins. Dieu, il a condamné fermement l'assassinat. Donc, ceux qui se disent comme ça, qu'ils veulent créer leur État, soi-disant État musulman, donc vraiment, c'est archi faux.
Merci Mohamed pour votre contribution. Je rappelle que vous êtes en Guinée. Il y a Gabianga Silas qui dit qu'il faudrait parler aussi de l'Afrique, par exemple le Mali, le Nigeria, le Tchad, le Niger et le Cameroun, qui sont menacés par les djihadistes de Boko Haram depuis 5 ans. Voici une question que je voulais poser dans la plateforme. D'où viennent les armes et qu'utilisent les djihadistes? Est-ce qu'on n'a pas le droit de le savoir? Athanase, est-ce que vous avez une réponse à notre auditeur?
Malheureusement, ça vient de partout. Il y a beaucoup de fabricants d'armes, aussi bien en Amérique qu'en Asie, qu'en Europe. Et ces fabricants d'armes cherchent des marchés, provoquent même des conflits pour pouvoir écouler leurs marchandises. Il y a beaucoup malheureusement, de cas qui montrent bien que beaucoup de guerres durent longtemps, s'éternisent, parce que des marchands d'armes veulent fournir les belligérants. Le cas qui me vient à l'esprit, c'est l'Angola. Pendant des années et des années, la guerre civile en Angola a duré parce qu'elle était soutenue du côté de Savimbi et du côté de MPLA. Les mêmes pays européens fournissaient des armes et à Savimbi et au MPLA. Donc c'est malheureusement le cynisme du commerce des armes. Et puis Eric, vous vivez dans un pays qui met la possession des armes parmi les droits humains les plus sacrés des Américains. Mais ça veut dire que c'est, derrière ça, il y a une industrie, il y a une association que vous connaissez qui ne veut surtout pas que les Américains aient des armes. Donc malheureusement, c'est le côté sombre de notre humanité. Il y a des gens qui fabriquent des outils de mort, qui les vendent, qui les distribuent, et puis il y a des pays qui les achètent. Nous sommes dans un pays en guerre civile au Burundi. Le Burundi s'approvisionne en armes auprès de fabricants, peut-être en Chine, peut-être en Russie, peut-être même en Europe.
Et on a vu que même ces terroristes, ils savent aussi fabriquer les armes.
Oui, exactement. Donc c'est un autre aspect de la violence humaine qui se sert de l'arme et de la religion. On en parlait tout à l'heure. Mais toutes les religions sont, ont été traversées ou sont traversées par la violence. L'Église catholique, heureusement, s'est guérie de la violence institutionnelle qu'elle avait créée en accompagnant la colonisation. Jusqu'en 1958, dans l'Église catholique, il y avait une prière pour que Dieu décime les Juifs du monde entier. Moi, j'ai prié, j'étais dans un petit séminaire où on nous faisait prier cette horrible prière en Vendredi Saint. Aujourd'hui, il y a des musulmans qui sont victimes de violences, d'abord dans les pays de guerre, malheureusement, comme au Nigeria, comme en Syrie, comme en Irak, mais il y a aussi des musulmans qui sont victimes au Myanmar, les Rohingyas qui sont musulmans, qui sont persécutés par des bouddhistes. Donc je crois qu'il faut vraiment avoir une vision extrêmement ouverte et surtout demander à toutes les religions de faire le ménage et de mettre avant les dogmes, avant les interdits ou les prescrits des religions, mettre la valeur humaine, mettre en avant la civilisation humaine, mettre en avant la protection de la vie humaine, les droits humains et de l'environnement, comme je le disais tout à l'heure.
Il y a Abbas Zougmo qui nous dit sur notre page Facebook, très bonne nouvelle du côté du pape, notre souhait, c'est que les Arabes, les Européens et les Américains s'entendent. S'ils ne s'entendent pas, je ne pense pas que ça peut finir. C'est son point de vue. Il y a Grégoire Ntumba, il dit c'est une belle initiative amorcée par la haute autorité pontificale, mais la préoccupation est la suivante. Le terrorisme ne date pas d'aujourd'hui. Il s'interroge, il se pose une question. Et Silva, il dit, pour ma part, les guerres dans le monde sont l'émanation des grandes puissances, entre autres, il indexe le Vatican. Mais chercher à trouver la solution, c'est du blabla, c'est ce qu'il dit. Avant que vous n'interveniez, Athanase, je donne la parole à Romero qui est en ligne. Romero, bonsoir.
Bonsoir, monsieur. Je ne suis pas le débat, donc je ne sais pas comment intervenir. Bon, je ne sais pas, je ne connais pas le sujet.
Le sujet, c'est la rencontre entre le pape et les quatre imams britanniques qui a eu lieu aujourd'hui au Vatican. C'est à la suite de l'attentat de Londres il y a deux semaines.
Oui. J'ai eu à réagir sur ça sur votre compte Facebook ce matin.
Absolument.
Voilà.
Allez-y.
Bon, comme je le disais tantôt, pour moi, c'est un peu déplorable. Parce que quand il s'agit de
déplorable, mais ce n'est pas cette rencontre qui est déplorable, je l'espère.
Voilà, quand il s'agit d'un attentat en Europe, tout de suite, on voit que tout le monde entier se mobilise, que le pape, tout le monde, mais on oublie des morts un peu partout. On oublie certains pays où on sème le désordre et on ne voit pas, aucune voix ne se lève pour condamner ça. C'est un peu déplorable. Mais quand il s'agit de l'Europe, net, le pape, l'ONU, tout le monde se lève. Je prends par exemple le cas de ce qui se passe au Togo. Chaque jour que Dieu fait, ça fait au moins plus de 10 ans que l'ONU est présent au Congo. Mais chaque jour que Dieu fait, on découvre des charniers, on découvre des morts, la personne n'y réagit. Mais quand il s'agit de l'Europe, net, tous les médias, toutes les personnalités du monde, on condamne ici, on condamne par là. Ce n'est pas la solution. Pour moi, ce n'est pas la solution. Personne ne soutient le terrorisme. Mais quand même, il faut situer la responsabilité de chacun, de tout un chacun. Voilà, quand on ne veut pas de désordre, il ne faut pas s'aimer le désordre dans le pays. C'est un peu ça. Pour moi, c'est déplorable. C'est déplorable ce qui se passe dans le pays.
Merci. Voilà. Merci, Romero, pour votre contribution. Il y a Vailam Nadji qui dit que l'effort du pape est louable, qui selon lui organise son genre de rencontre pour combattre le terrorisme, mais que la question qui lui tient au cœur, c'est la suivante. Pourquoi ces terroristes tuent au nom de l'islam? Est-ce le Coran le permet? Nous avons un autre auditeur en ligne, c'est Ernest. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez la parole.
Et moi, je suis à mon
allez-y, oui. Votre point de vue, on vous écoute.
Ah, je suis un étudiant, mais nous sommes dans une crise politique.
Ernest, on parle de la rencontre entre le pape et quatre imams britanniques aujourd'hui au Vatican. C'est une rencontre qui a eu lieu justement à la suite de l'attentat de Londres, mais une rencontre qui était organisée avant cette attaque. On sait qu'il y a une crise politique au Burundi. On y reviendra. Est-ce que vous pensez qu'il y a une connexion entre cette crise au Burundi et cette rencontre qui a eu lieu?
Non, c'est comme une demande. Je suis en train de demander pour vous dire aussi si nous, les Burundais.
Dire quoi?
Si la crise politique.
On aura un débat spécifique à cette crise, Ernest. On espère que ça va finir bientôt pour que vous puissiez vous retrouver dans la paix, nous retrouver dans la paix, parce que je suis aussi originaire du Burundi. On y reviendra, Ernest. Athanase, vous avez suivi quelques commentaires rapidement, en une minute. Il y a eu même des questions sur notre toile.
Oui, on peut malheureusement pas répondre à toutes ces questions, mais il y a une chose qui me surprend toujours au cours de cette émission. On met toujours l'Afrique, enfin beaucoup d'intervenants ont toujours tendance à mettre l'Afrique du côté des pays, un continent qui subit. Mais l'Afrique, elle peut aussi être active, elle peut prendre des initiatives. Je donne un exemple. Le Costa Rica, c'est un pays d'Amérique centrale qui a aboli l'armée en 1947. Et ils ont fermé les casernes, enfin ils n'ont pas fermé les casernes, ils ont transformé les casernes en écoles ou en hôpitaux. Et depuis cette année, le Costa Rica figure parmi les pays où la stabilité politique serait développée, mais surtout un développement économique extraordinaire. Les pays africains peuvent s'inspirer de ce modèle costaricain et ne pas investir massivement dans des armées qui ne valent rien et qui dépendent de l'armement fourni par des puissances internationales. Donc, je crois qu'il faut que les Africains aussi prennent l'initiative d'anticiper et d'être acteurs dans le commerce international des armes.
Je vous signale que nous avons un auditeur en N'Djamena, Athanase, c'est Théodore. On va l'écouter. Théodore, bonsoir. Théodore, vous êtes là? Vous êtes là? Oui, allez-y. Votre point de vue. Il nous reste très peu de temps.
D'abord, l'acceptation des visites de deux imams africains, d'abord, est un geste de carême politique envers ces hommes, la manière que les gens pensent que les musulmans sont les terroristes, mais le fait que Londres a été victime de terrorisme. Donc, on a un très bon geste de carême à tenir juste pour résoudre le mal et non résister ceux qui font le mal.
Merci Théodore pour votre contribution. Il nous reste moins d'une minute pour finir cette émission. Athanase, est-ce qu'au-delà de cette rencontre, le pape ne voudrait pas montrer aux Britanniques que l'islam n'est pas l'ennemi pour éviter qu'il y ait des représailles insensées?
Non, je ne pense pas que le pape n'a jamais, ne pourrait jamais penser que l'islam, c'est l'ennemi des droits humains, de la vie. Je crois que le pape peut appeler à la conscience universelle, comme d'autres chefs religieux, comme Télébin.
Merci, Athanase. Le pape, voilà. Aujourd'hui aussi, sur la place Saint-Pierre, il a dénoncé un massacre inacceptable en Syrie. Et c'est la fin du dialogue des religions. N'oublie pas de faire du bien autour de toi, car demain ne t'appartient pas. À la prochaine.